Europe 1, les humeurs de l'été. Thierry Geffrotin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. De quelle humeur êtes-vous en ce moment? De quelle humeur étiez-vous ce matin en vous levant? Êtes-vous d'humeur changeante? Ah, les humeurs! Elles peuvent varier selon les circonstances, selon les heures de la journée. Tout au long de l'été, je vous propose chaque jour une humeur différente que j'illustre en musique avec des extraits de films ou de livres en évoquant des personnalités dont le nom est particulièrement associé à l'humeur du jour. Et tout cela avec une idée en tête, que vous preniez du plaisir, vous mettre de bonne humeur. Bonne humeur, ben ce n'est pas exactement mon état d'esprit aujourd'hui. Je ne suis pas d'humeur à négocier, à palabrer, à m'expliquer. Il ne faut pas me chercher, pas me chatouiller. Un conseil, petit conseil, restez tranquille dans votre coin, car aujourd'hui, je suis d'humeur belliqueuse et je ne manque pas de mots pour vous le dire. Des plus nobles, guerroyer, batailler, à des mots plus argotiques, la baston, la marave, les noises, le grabuge, les coups vont pleuvoir, il y en aura pour tout le monde. Je vous l'avais dit, pas de quartier, je suis d'humeur belliqueuse, faudra vous le dire combien de fois.
Chez les durs, les malabars, on appelle la bagarre. Rififi, presque rien, un mot banal, allume le signal. Du rififi, dans ce remous, quand les hommes font joujou, y a de la viande quand prend un coup, on entend des os qui grattent. Sans un cri, sans un murmure, on fait sa petite cure de rififi. Fond dans l'espace, une bouteille passe, un verre se casse. On se rentre dedans, on crache des dents, ça pisse le sang. C'est chacun pour soi, on s'en donne à cœur joie. Et quand tout est fini, on numérote ses abattis. Chez les durs, les malabars, on appelle la bagarre du rififi. Oh, presque rien, un mot banal allume le signal du rififi. Même en amour, quand deux hommes font la cour à une pépée d'amour, ça finit par faire de la casse. On s'observe, on s'évalue et l'on joue sa vertu. Oh, rififi. Quand les flics viennent s'informer, que s'est-il donc passé? Rififi. On faisait juste entre amis une toute petite partie de rififi. Une fois lâché, on va vite se payer une tournée à la santé de monsieur le commissaire. Oui, 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 patatras qu'il pleut des nions, car on est les champions du rififi.
Charles Aznavour, la bagarre. On se retrouve dans quelques instants et ne pensez pas que je vais me calmer pendant la pause. Je serai encore d'humeur belliqueuse. Chaque jour, une humeur différente dans cette émission que j'ai le plaisir de vous présenter durant tout l'été sur Europe 1. Et aujourd'hui, je suis donc d'humeur belliqueuse comme Le Braque et ses copains, Grand Gibus et Petit Gibus, trois héros de la guerre des boutons. Le roman de Louis Pergaud, paru en 1912, qui a été adapté 5 fois au cinéma et même 2 fois en 2011 par Christophe Baratier et Yann Samuel. Mais c'est la version de 1962, celle d'Yves Robert dont j'ai envie de vous parler. Lorsqu'Yves Robert présente son projet au producteur, ils ne sont pas vraiment chauds parce qu'il n'y a aucune vedette dans le film. Alors avec sa femme, Danielle Delorme, ils fondent en 1960 sa propre maison de production. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Pour trouver les jeunes comédiens, amateurs, cela va de soi, le réalisateur va photographier près d'un millier d'enfants d'une douzaine d'années dans différentes colonies de vacances. Il en retient une centaine. Parmi eux, pour la petite histoire, se trouvent les deux petits-enfants du photographe et peintre Jacques-Henri Lartigue. Pas de vedette dans ce film. Tous les enfants sont des stars dans la guerre des boutons, à commencer par Petit Gibus.
J'aurais pas venu.
Petit Gibus, pas bien grand, et Alain Souchon, un peu batailleur lui aussi, et qui a toujours 10 ans.
J'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire, je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans, les fils et les cloches, j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai des prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tarde ta gueule à la récré.
J'ai 10 ans, Alain Souchon. On va changer d'époque, mais je vais rester d'humeur belliqueuse. Je vais à présent vous parler de la guerre au Moyen-Âge. Ah, la guerre au Moyen-Âge. Vous imaginez des chevaliers, pré-chevaliers évidemment, chevauchant des destriers racés et chargeant avec les troupes à pied disciplinées. Stop. On va oublier cette image d'Épinal. Au Moyen-Âge, il y a peu de batailles rangées et quand cela arrive, cela se fait le plus souvent dans un tel désordre que l'issue n'en est pas toujours certaine. Il était même difficile parfois de savoir qui avait gagné, tout cela se terminant le plus souvent en débandade. Mis à part les fous de guerre, les têtes brûlées, le gros des troupes était le plus souvent constitué d'un assemblage hétéroclite de mercenaires, de soudards, comme l'on disait, ou d'enrôlés. Bref, une troupe plus soucieuse d'un éventuel butin que de gloire, et surtout de gloire posthume. Les batailles rangées n'étaient donc déclenchées que très occasionnellement, et ne mettait souvent en présence que très peu de combattants. Car une bataille perdue avec un effectif important, c'était la fin de la guerre tout simplement. Et parfois donc, ces batailles n'opposaient que quelques dizaines ou centaines de combattants, tout cela ne durant que très peu de temps avec un nombre très restreint de victimes. En fait, ce qui était très important, ce sont les chevauchées, les pillages et surtout les sièges qui pouvaient durer très longtemps, voire des années. Tout ce que je viens de vous raconter, je l'ai appris sur un site fort bien documenté, il s'agit de mediavart.com. Pour illustrer ces batailles au Moyen-Âge, je vous propose le générique d'un vieux feuilleton mais qui a marqué toute une génération, dont la mienne, Thierry Lafronde. Le générique du feuilleton Thierry Lafronde, c'est Jacques Loussier, grand jazzman, qui a écrit cette musique. 52 épisodes, 4 saisons pour Thierry Lafronde, entre 1963 et 1966, un Robin des Bois à la française. Dans quelques instants, belliqueux toujours, avec les tontons flingueurs.
Sur Europe 1, Thierry Geffretin illustre les humeurs de votre été.
On va continuer à castagner dans cette émission, à donner des coups et à essayer de ne pas en prendre. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, je suis d'humeur belliqueuse. Dans Les Tontons Flingueurs, célèbre film de Georges Lautner, celui qui donne des coups, c'est Fernand Naudin, Lino Ventura. Et celui qui reçoit les coups, c'est Raoul Volfoni, Bernard Blier. Allez, allez, on se fait un petit plaisir.
Il chante et puis craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou ce mec!
Mais moi, les dingues, je les soigne.
On va lui faire une ordonnance.
Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, ça son puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile.
Je vous imagine derrière votre poste, peut-être au volant de votre voiture, disant le texte en même temps que Bernard Blier, car vous connaissiez évidemment cette réplique par cœur. Vous connaissez aussi la musique, ce banjo qui ponctue le bourre-pif. Ah, je fais bien le banjo, oui. Mais connaissez-vous l'histoire de cette musique? Eh bien, en 2010, j'avais eu la chance de rencontrer Georges Lautner qui m'avait raconté comment il avait rencontré Michel Magne à la demande de la production. Michel Magne lui avait présenté son idée de musique, juste quatre petites notes de musique. Pam, 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 pam. Sur le coup, Georges Lautner avait trouvé l'idée un peu sommaire, mais il s'était dit que Michel Magne avait sans doute de bonnes idées. Eh oui, de très bonnes idées, puisqu'il l'utilise tout au long du film, ces quatre notes. Eh bien, je vous propose d'écouter ces quatre notes. Alors d'abord, à la manière tamouret. Oh, une danse, une vieille danse. Après le tamouret, le slow. Le thème des tontons flingueurs avec une autre danse tombée dans l'oubli, le Hully Gully. Et finalement, les quatre notes qui deviennent un final direct. Et voilà comment, avec quatre notes de musique, quatre toutes petites notes, Michel Magne est entré dans l'histoire de la musique de film Les Tontons Flingueurs, film de Georges Lautner, évidemment.
Les humeurs de l'été. Thierry Geffrotin sur Europe 1.
On enseignait dans ma jeunesse, lorsque nous étions au front, que la guerre était moralisatrice, purificatrice et rédemptrice. On a vu quel prolongement ont eu ces turlutaines, trafiquants, marchés noirs, délations, fusillades, tortures, tuberculose, typhus, terreur, sadisme et famine. De l'héroïsme, d'accord, mais la petite, l'exceptionnelle proportion d'héroïsme ne rachète pas l'immensité du mal. D'ailleurs, peu d'êtres sont taillés pour le véritable héroïsme, ayons la loyauté d'en convenir, nous qui sommes revenus. L'auteur de ces lignes est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. C'est aussi un écrivain. On lui doit Clochemerle et ce roman autobiographique paru en 1930, La peur. Cet auteur s'appelle Gabriel Chevallier. Gabriel Chevallier, que l'on reconnaît dans son roman sous les traits de Jean d'Artemont, raconte la guerre de 14-18 telle qu'il l'a vécue et subie alors qu'il n'avait que 20 ans. Le quotidien des soldats, les attaques ennemies, les obus, les tranchées, la vermine et la peur, terrible, insidieuse, la peur qui décompose mieux que la mort, la peur, le mot interdit. Et dans ce roman exceptionnel, hallucinant, terrifiant, à aucun moment l'ennemi n'est visible. Pas un Allemand, un seul en fait dans ce récit, mais il est mort. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu, écrit encore Gabriel Chevallier, parce qu'il n'y a que des cadavres. Être vainqueur, c'est vivre. Un extrait de la bande originale du film « Au revoir là-haut » signé Christophe Julien, film d'Albert Dupontel d'après le roman de Pierre Lemaître, prix Goncourt 2013. L'action se situe juste après la Première Guerre mondiale. Deux rescapés, des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable. Vous avez peut-être vu le film. Ces deux hommes décident de monter une arnaque au monument aux morts, film à voir et roman à lire. Et je vous rappelle donc « La peur » de Gabriel Chevallier en cette année du centenaire de la fin de la Grande Guerre. La guerre en musique, une chanson pas belliqueuse du tout. Extrait du film Good Morning Vietnam, The Marvelettes, Danger Heartbreak, Dead Ahead. Danger Heartbreak, Dead Ahead, chanson interprétée par le quartet The Marvelettes.
Sur Europe 1, Thierry Geffretin illustre les humeurs de votre été.
Et voici un moment très important de cette émission, celui où je choisis celui ou celle qui symbolise le mieux l'humeur du jour. Dans le genre belliqueux, j'aurais pu choisir le Grand Condé, ce prince qui servit le roi Louis XIV et surtout se servit. Condé aimait les fastes, les fêtes, son château, mais il aimait aussi la castagne. J'aurais pu aussi choisir, pour illustrer cette humeur, les seigneurs noirs des Scythes de la guerre des étoiles ou les Gaulois du village d'Astérix et Obélix qui passent beaucoup de temps à se battre quand ils ne baffent pas les Romains. Il y a aussi Louis VI le Gros, dit le roi batailleur. Alors là, nous sommes au XIe siècle. Non, finalement, j'ai choisi Harald Schumacher. Ah, Harald Schumacher. Mais si, voyons. Vous étiez devant votre poste de télé le 8 juillet 1982. Ben, vous vous souvenez de Schumacher? Ce jour-là, il entre dans l'histoire du football pour une agression très violente sur le joueur français Patrick Battiston. La France qui joue à Séville une demi-finale de Coupe du Monde contre la RFA. Battiston est grièvement blessé. Schumacher n'est pas sanctionné et cette agression lui vaudra le surnom de « boucher de Séville ». Un autre méchant, à présent, le colonel Kurtz, officier américain qui écoute du Wagner à bord d'un hélicoptère. Vous avez reconnu Marlon Brando dans le film de Francis Ford Coppola, « Apocalypse Now ». La chevauchée des Valkyries de Richard Wagner. C'est aussi d'ailleurs dans le film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. On se retrouve dans un instant, nous allons parler de Haka.
Thierry Geffretin illustre les humeurs de votre été sur Europe 1.
Tout l'été, je vous propose de vivre selon mes humeurs. Et chaque jour, je suis donc d'une humeur différente. Aujourd'hui, humeur belliqueuse et je ne suis pas le seul. Vous avez reconnu le haka, même si vous n'êtes pas fan de rugby. Le haka que les Maoris ont rendu mondialement célèbre par l'intermédiaire de l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande, les All Blacks, qui interprètent le kamate avant ses matchs depuis 1905. Alors, chant de guerre, le haka, il peut l'être. En effet, voilà ce que dit notamment le haka des All Blacks. « C'est la mort, c'est la mort, c'est la vie, c'est la vie. Voici l'homme poilu qui est allé chercher le soleil et l'a fait briller de nouveau. Faites face !» Faites face en rang, soyez solide et rapide devant le soleil qui brille. Alors c'est un peu belliqueux, mais pas tant que ça en fait, parce que ce rituel est aussi pratiqué à d'autres occasions très pacifiques, lors d'obsèques. C'est un hommage très impressionnant, celui rendu au rugbyman néo-zélandais Jonah Lomu, notamment à l'Eden Park, c'était en 2015. Et la même année, 1700 élèves d'un lycée de Nouvelle-Zélande à Palmerston ont effectué un haka en l'honneur d'un de leurs professeurs décédés. Très impressionnant aussi. Le haka est aussi déclamé lors de mariages. Alors là, il est vraiment très, très pacifique. Mais, oulala, mais je m'égare là. Je suis d'humeur belliqueuse, ne l'oublions pas. Battez-vous, battez-vous. Les Brigitte le chantent.
Soyez gangster, soyez voyou. Montez-vous, battez-vous. Toi, mon tout, mon loupard. Montez-vous, battez-vous. Tu serais mon lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours. Sortez. Dans la gadoue, mettez-vous à genoux. Toi, mon tout, mon loupard.
Mettez-vous à genoux.
Tu serais mon lascar superstar.
Mettez-vous à genoux.
J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours. J'ai tellement besoin d'amour. Tu ferais de moi ta belle de jour.
C'est mon pauvre living. Je veux du swing et du bling bling. Et que le meilleur gagne sur le ring.
Toi, mon tout, mon loupard. Tu serais mon lascar superstar. Et moi, j'ai si peur dans le noir.
Battez-vous, ce sont les Brigitte qui le chantaient.
Les humeurs de l'été sur Europe 1.
Thierry Geffrotin.
Les Bolkonski, les Rostov et les Bezoukov. Trois familles, une centaine de personnages au total, la guerre et un chef-d'œuvre de 2000 pages, et oui, 2000 pages, Guerre et paix de Tolstoï. D'abord publié en feuilleton entre 1865 et 1869 dans Le Messager russe, ce livre, qui est une véritable fresque, raconte l'histoire de la Russie à l'époque de Napoléon Ier, et notamment pendant la campagne de Russie en 1812. Dès sa publication, Guerre et paix est un immense succès, et pourtant, Tolstoï confia à un ami qu'il s'attendait à ce que son roman passe inaperçu. Vous imaginez, eh oui. Résumer Guerre et paix, c'est pratiquement impossible, d'autant que Tolstoï parsème son récit de nombreuses réflexions personnelles qui cassent le rythme de la lecture. L'action se passe de 1805 à 1820. Lire Guerre et paix, c'est un vrai défi. 2000 pages, je vous disais, parfois moins, car il y a plusieurs versions voulues par Tolstoï lui-même. Il n'empêche, c'est quand même un pavé. Et j'ai trouvé sur un site, une pile de livres.com, c'est son nom, une lectrice qui répond à cette question. Comment faire pour lire Guerre et paix? Et voici ce qu'elle écrit. J'attaque les premières pages avec un enthousiasme un peu forcé. Et puis voici que défilent les bals, les dîners, les princes et les comtesses aux noms capricieux. Je farfouille sur le web à la recherche de quelques explications. L'auteur prend un malin plaisir à multiplier les dénominations. Les personnages sont tantôt désignés par leurs prénoms et leurs multiples variantes. Exemple, Natacha qui devient Natalia ou Nathalie, tantôt par leur nom de famille, tantôt par leur prénom, le prénom du père, auquel on appose un suffixe qui lui-même a plusieurs versions. Vous me suivez? Ben voilà, c'est un peu ça, hein, Guerre et paix. Et elle ajoute, il me faut un carnet et un stylo. Je bâtis une généalogie, repère, qui me servira tout au long du livre. Première difficulté, vaincue. Cette lectrice est déjà heureuse. Finalement, la lecture n'est pas si difficile, dit-elle. Les chapitres sont très courts, le style abordable, et puis cette histoire d'héritage et de manipulation, ça commence à devenir intéressant. Et la fin de cette fiche de lecture, drôle et argumentée, la voici. C'est un peu groggy, mais ravi que je referme ce pavé finalement englouti en moins d'un mois, défi relevé. J'ai découvert une époque révolue, une contrée lointaine, une pensée actuelle. La guerre et la paix est une fresque riche en couleurs, en fureur, en passion. Un roman que l'on pourrait bien transposer à notre époque. Des champs de bataille, des hommes politiques avec d'autres noms, mais des motivations et une impuissance toutes similaires. Ça, c'est une question qu'elle se pose. Alors pour ma part, je n'ai jamais lu Guerre et paix. Et je pense que je vais le faire d'ailleurs, après avoir trouvé sur Internet ce récit, ces notes à propos de ce roman. La bande originale tenait d'un autre film qui a pour cadre la Russie, car il faut bien qu'on écoute un peu de musique après tout ça. Docteur Jivago, musique de Maurice Jarre. Thank you. un extrait de la bande originale du film Le Docteur Jivago, musique de Maurice Jarre. Dans un instant, nous écouterons quelques chansons de Johnny Hallyday sur un mode belliqueux. Il a chanté le blues, il a chanté l'amour, il a aussi chanté des chansons beaucoup plus violentes. Petit florilège de chansons de Johnny Hallyday sur un mode belliqueux. Et d'abord...
Les coups, quand ils vous arrivent, oh oui, oui ça fait mal. Les coups, à qui apprennent à vivre, oh oui, oui ça fait mal. Avant de faire un homme d'un tout petit enfant, il en faut à tout. Pour qu'il devienne un grand, combien de fois à terre il lui faudra tomber et sans pleurer, apprendre à se relever. Il deviendra un homme petit à petit en apprenant les dures leçons de la vie. Oh oui, les coups de l'amour qui s'en va, les coups qui en font un soldat, les coups quand ils vous arrivent. Oh oui, oui, ça fait.
Des coups, donc, la bagarre.
Si vous cherchez la bagarre, vous êtes venu à la bonne place. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Et je n'aime pas beaucoup, non, qu'on m'en montre. J'avoue que la bagarre, je ne suis pas contre. Ça me fait pas peur. Je dirais même, pas que j'aime cogner. C'est un plaisir. D'accord les gars, moi je vais vous soigner.
Mais quand on se bat, on peut finir les bras en croix.
Dans la vallée de l'Oklahoma, ton coup de fusil fait mouche toutes les fois. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière. Les bras en croix. Tu triches au jeu et dans le pays, on te surnomme partout le maudit. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière. Les bras en croix. Avec insolence tu défies les hommes, tu chipes leurs femmes, mon Dieu. Il faut voir comme à ce petit jeu tu t'amuses trop. Et tu laisseras ta peau dans la vallée de notre enfance. Tu as commis les pires des offenses. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en croix.
Et tout cela, c'est donc une affaire de mauvais garçons.
Les mauvais garçons, s'ils donnent des coups, ne sont pas méchants, je vous l'avoue. C'est qu'ils en ont reçu de partout et beaucoup. Les mauvais garçons, ces inconnus, n'ont pas le désir du défendu quand ils sont en bande au coin d'une rue. On leur défend toutes les joies en les montrant partout du doigt. Pourquoi les mauvais garçons serrant le poing ne sont pas méchants, je le sais bien. Ils voudraient connaître un peu de la fille aussi. Ce jour-là, alors nous les verrons avec de l'amour parmi les bons. Ils ne seront plus de mauvais garçons. Les mauvais garçons. Les mauvais garçons.
Johnny Hallyday sur un mode bagarreur. L'occasion de réécouter Johnny dans cette émission où, vous l'avez compris, je ne suis pas à prendre avec des pincettes. Des bagarreurs, des méchants, des belliqueux, il y en a aussi dans la bande dessinée, mais ils peuvent être d'une certaine manière sympathiques. C'est le cas des Dalton, les quatre frères Dalton, portant leur véritable nom, Bob, Gratt, Bill et Emmett, qui apparaissent dans l'album Hors la loi. Et de manière assez inhabituelle pour un épisode de Lucky Luke, et conformément à la vérité historique, ils meurent à la fin de l'épisode. Trop bête, mais vraiment trop bête de faire mourir les Dalton, se dit ensuite Maurice, qui en parle à René Goscinny, les deux créateurs de cette série. Et d'une certaine manière, Maurice se dit, il faut les ressusciter. Il en parle à Goscinny. Goscinny va donc créer les cousins d'Alton, Joe, William, Jack et Avrel. Ces Dalton s'avèrent, contrairement à leurs cousins d'ailleurs, des bandits au départ relativement inoffensifs, mais bien vite très très redoutés des populations. Ils deviennent des personnages récurrents des aventures de Lucky Luke, auxquels ils tendent occasionnellement à prendre la vedette. Des stars même, ces Dalton, puisque Joe Dassin leur consacre une chanson en 1967.
Ceci sert d'exemple à tous ceux que le diable écarte du droit chemin. Tout petit à l'école,
à la place des crayons, ils avaient des limes. En guise de cravate, des cordes de lin. Ne vous étonnez pas, c'est leur tout premier crime. D'avoir fait mourir leur maman de chagrin. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacadin, tacadin, il n'y a plus personne.
Les années passèrent.
Ils s'étaient débrouillés pour attraper la rage. Et ficelaient le docteur qui faisait les vaccins. Et puis contaminèrent les gens du voisinage. S'amusant à les mordre, puis accuser les chiens. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, y a plus personne.
Ils devinrent des hommes.
Un conseil, mon ami, avant de les croiser. Embrasse ta femme, serre-moi la main. Vite sur la vie, va te faire assurer. Tranche-toi la gorge et jette-toi sous le frein. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacadin, tacadin, y a plus personne. Tête augmentée de 20 centimes.
Les centimes américains.
Ils étaient vaniteux et avides d'argent. Ils se livraient eux-mêmes pour toucher la prime. Car ils étaient encore plus bêtes que méchants. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacadin, tacadin, y a plus personne.
Joe Dassin qui chantait les Dalton en 1967. C'est la fin de cette émission. Merci à Serge Fontaine qui la réalise. Merci à Hugo Delamarre qui m'aide à la documentation. À Benoît Valentin pour la programmation musicale. On va se quitter avec John Lennon. Give Peace a Chance. Eh oui, on va quand même se quitter un peu sur un mode un peu moins belliqueux. Chanson sortie en pleine guerre du Vietnam en 1969 et devenue un hymne pour la paix. Bonne fin de journée sur Europe 1.
1, 2, 3, 4.
Cannon Give Peace a Chance sur Europe 1. Et demain, nous retrouvons Thierry Geffrotin pour les humeurs de l'été. Thierry qui sera d'humeur artistique.